CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE, c'est la rentrée septembre 2024. Et avec nous aujourd'hui, Monique et Alain. Monique, tu vas revenir sur le baromètre de la pauvreté paru par Ipsos pour le Secours Populaire.
Oui, qui vient de sortir et c'est intéressant dans ce moment politique particulier que nous vivons, eh bien, d'avoir connaissance de ce que ressentent un certain nombre de Français.
Alain, tu allais faire un tour du côté de l'Atrium
oui,
de Chaville
oui,
pour nous présenter quelque chose.
Et oui, la saison théâtrale démarre un peu tard cette année, c'est qu'en octobre, tout début octobre, et je vous présenterai les deux pièces qui sont à l'affiche le 5 octobre.
Et enfin, on terminera de retour au micro avec Monique Couteau pour nous parler d'une association.
Oui, je vous parlerai de l'Aïkido, de l'association qui effectivement développe ce sport. Je le ferai à leur place exceptionnellement parce qu'ils ne pouvaient pas venir ce soir, mais ils viendront ultérieurement. Mais j'ai un certain nombre de choses à dire.
Tout de suite, c'est la chronique du quotidien avec Monique Couteau.
Avec Monique Couteau.
Monique, on parlait tout à l'heure du baromètre de la pauvreté, Ipsos. Alors, peux-tu rappeler avant tout comment est faite cette enquête ?
Oui, alors cette enquête, elle a été menée par l'Institut Ipsos pour le Secours Populaire au mois de mai 2024 auprès d'un échantillon de population âgée de 16 ans et plus. C'est une enquête menée avec cet institut pour la 18e année consécutive et dont le sérieux n'est jamais remis en cause.
Alors avant de rentrer dans les détails des chiffres sans doute, que faut-il retenir comme idée générale ?
Eh bien, selon le Secours Populaire, 2 Français sur 5 disent traverser une période de grande fragilité financière. 62% affirment par ailleurs avoir connu la pauvreté ou avoir été sur le point de la connaître, et c'est 4 points de plus par rapport à 2023. Cette enquête, elle brosse le tableau d'une précarité qui s'aggrave, s'étend, et où l'accès à l'énergie, à la prévention et aux soins est fortement dégradé, en particulier pour les populations des zones rurales. Mais comme on le verra dans la prochaine émission, le rapport d'activité du Centre communal d'action sociale de Chaville montre que de nombreux problèmes sont partagés.
Quelle population est principalement touchée par cette précarité aggravée ?
80% des ouvriers déclarent avoir connu la pauvreté ou avoir été sur le point de la connaître. C'est plus de 6 points en un an. Et compte tenu d'une situation économique sur le fil du rasoir pour beaucoup de familles, la crainte d'une transmission de la pauvreté entre générations est massivement partagée. 79% estiment que les risques sont plus élevés pour les jeunes et c'est jusqu'à 86% chez les parents d'enfants de moins de 18 ans. On retrouve cette inquiétude stabilisée à des niveaux très élevés depuis 2018, ce qui est grave. Ce manque de confiance dans le futur traduit le processus de reproduction des inégalités. La grande fragilité de nombreux ménages se reflète dans la hausse, pour la 3e année consécutive, du seuil de pauvreté subjectif, qui répond à la question de combien doit disposer une personne seule par mois pour ne pas être considérée comme pauvre. La réponse est de 1396 euros, c'est-à-dire une hausse de 19 euros par rapport à 2023, et on est simplement à 2 euros du SMIC, qui est à 1390 euros net par mois, travaillé à temps plein. Hein, au moment où des discussions sur le niveau du SMIC vont avoir lieu, c'est quand même intéressant d'entendre ça. 52% des Français qui ont répondu déclarent avoir beaucoup de mal à réussir à mettre de l'argent de côté, et 16% des interrogés sont à découvert tous les mois. Et pour les ouvriers, c'est 31% d'entre eux qui sont dans le rouge chaque fin de mois.
Alors, quels sont les postes du budget qui sont les premiers touchés par ces difficultés ?
Ces difficultés financières, elles imposent des arbitrages de plus en plus serrés sur les dépenses d'énergie, de logement, de mutuelles de santé. Près d'une personne sur deux peine à payer ses factures d'énergie, 47%. C'est donc plus 2 points par rapport à 2023. Les factures sont si lourdes que 43% des personnes interrogées ne chauffent pas régulièrement leur logement quand il fait froid. Et 69% des personnes ayant un revenu inférieur à 1200 euros ont beaucoup de mal à régler leurs factures énergétiques. soit 5 points de plus qu'en 2023, ce qui montre une dégradation très forte pour plus de 8 millions de personnes qui vivent avec les revenus les plus bas. Le coût du logement continue de fragiliser les familles à un niveau jamais mesuré auparavant. 38% peinent à payer leur loyer ou leur emprunt immobilier. Plus 4 points par rapport à 2023, ils sont souvent contraints de ne pas faire 3 repas par jour. C'est aussi un autre record dans le domaine de la santé. 29% ont beaucoup de mal à disposer d'une mutuelle, 3 points de plus que l'an passé. À ce tableau, il faut ajouter que 32% sont souvent contraints de ne pas manger régulièrement et de se priver pour que les enfants, quand il y en a, puissent eux avoir des repas à peu près équilibrés. C'est donc une aggravation des inégalités d'accès aux besoins essentiels.
Tu as évoqué tout à l'heure l'analyse pour les habitants des petites communes rurales. Que dit l'enquête ?
57% des ruraux peinent à partir en vacances au moins une fois par an. C'est 9 points de plus par rapport à l'ensemble de la population et 31% d'entre eux renoncent à pratiquer une activité de loisir. 40% ont des difficultés à disposer d'équipements numériques en état de fonctionnement. C'est plus de 7 points par rapport à l'ensemble de la population. Et ça veut dire la privation de l'accès aux services, y compris aux services publics, qui ont massivement migré sur Internet, ce qui rend aléatoire la possibilité de faire valoir ses droits. 44% des ruraux jugent très difficile l'accès aux services de santé, c'est 34% pour l'ensemble de la population. 59% des ruraux estiment que les transports en commun sont trop éloignés ou trop irréguliers, et là, c'est carrément 18 points de plus que l'ensemble des Français. Enfin, près de 25% jugent les services sociaux peu accessibles alors que les besoins sont élevés.
Eh bien, merci beaucoup Monique Couteau. Je rappelle que vous pouvez consulter ce rapport sur Internet. Ce rapport tombe dans un moment politique particulier où on peut se poser la question de quel gouvernement pour quelle politique et où on annonce des milliards d'économies à faire. Alors que la question de mesures à prendre contre la précarité et contre la pauvreté, je rappelle entre parenthèses 10 millions de pauvres, et pour l'accessibilité à des services publics de qualité sur l'ensemble des territoires est posée, y compris dans ses conséquences politiques, comme l'ont montré les élections de juin dernier. Et on attend la prochaine émission, n'est-ce pas Monique, pour se pencher sur l'activité du CCAS de Chaville. Mais tu voulais aussi donner 3 informations avant de passer à la chronique suivante.
Oui, cet été, vous avez peut-être vu passer la pétition des parents de la crèche des optimistes du groupe People and Baby, qui ont appris brutalement le 10 juillet par le groupe le projet de fermeture de la crèche au 31 juillet. Fermeture d'une crèche de 46 berceaux, laissant une trentaine de familles chavilloises dans une situation très compliquée pour la rentrée. Si vous connaissez des familles concernées, nous leur donnons volontiers la parole pour qu'ils témoignent de leur parcours et de leur situation en cette rentrée et des réponses que la municipalité a pu éventuellement apporter. Vous pouvez nous contacter par mail ou au 06 87 10 84 91. Cette affaire, au moment où le livre de Victor Castanet, Les Ogres, qui dénonce la logique de profit des crèches privées, met en lumière la nécessité d'une vraie politique de service public de la petite enfance au niveau communal. La deuxième information, nous en reparlerons dans une prochaine émission, concerne le projet de géothermie qui concerne les 4 villes, Viroflay, Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray. Un projet d'ampleur porteur de réduction d'émissions de CO2, permettant demain d'alimenter en chaleur plus de 13 000 logements. Une réunion publique se tiendra le 5 février à Chaville. Vous pouvez d'ores et déjà la marquer dans votre agenda, mais nous en reparlerons. Et la troisième information, nous avons rencontré 80 associations au Forum des associations début septembre. Quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes les bienvenus ici à notre studio d'enregistrement pour venir parler de vos projets, vos fonctionnements, vos besoins. N'hésitez pas, la vie associative est un élément fondamental de notre commune.
Merci beaucoup Monique. On passe tout de suite à la chronique bande-annonce avec Alain de Frémont.
Avec Alain de Frémont.
Bonjour à tous, bonjour Jonathan, bonjour Monique. Dans le prolongement des Jeux paralympiques, l'Atrium nous propose, ce samedi 5 octobre à 20h45, un spectacle de théâtre et de danse promouvant l'inclusion des personnes porteuses de handicap dans le spectacle vivant. Il s'agit de deux spectacles, Nuka, un visiteur inattendu, et Passage. Dans le cadre de ses engagements envers l'innovation artistique et l'inclusivité, la compagnie La Possible Échappée nous présente sa dernière chorégraphie, Nuka, le visiteur inattendu. Ce spectacle est une véritable célébration de la diversité, du talent et de l'imaginaire. C'est orchestré par Cathy Mépuis, chorégraphe et directrice artistique, et mis en scène par Pierrick Malbranche. Il nous emporte pendant 40 minutes dans un voyage au-delà des frontières de la réalité. La composition de la troupe est en elle-même un hymne à l'harmonie et à la diversité. 13 danseurs prennent part à ce spectacle, dont 8 personnes en situation de handicap, plus Nuka, une marionnette, qui insuffle vie et âme aux visiteurs inattendus, et en plus un violoncelliste. Nuka n'est pas qu'un simple personnage, il est le fil conducteur d'une histoire qui défie les conventions. La marionnette, animée avec une grâce et une précision époustouflantes, devient un miroir de nos propres curiosités, de nos craintes et de nos espoirs. À travers ses interactions avec les danseurs, Nuka pose des questions sur l'existence et sur l'essence même de l'humanité. Le violoncelliste, lui, véritable architecte de l'ambiance sonore du spectacle, tisse une toile de fond musicale qui amplifie chaque moment, chaque émotion. Le spectacle est une invitation ouverte à laisser derrière soi ses préoccupations du quotidien et à s'engager dans un voyage au cœur de l'imagination. Chaque scène, chaque tableau est conçu pour éveiller la curiosité, pour inspirer et pour provoquer une réflexion sur la capacité de l'art à transformer, à guérir et à unir. En seconde partie de soirée, Passage, créé par Maxime Thomas, danseur de l'Opéra de Paris et dirigé par Cathy Mépuis, est une exploration de la danse comme moyen d'expression des transitions de la vie. Le spectacle utilise le langage corporel pour naviguer à travers des thèmes universels tels que la solitude, la liberté, la transformation. Je vous rappelle que c'est le samedi 5 octobre à 20h45 à l'Atrium de Chaville.
Merci beaucoup Alain de Frémont. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir que tu as pu croiser dans le programme que tu pourrais nous parler?
De l'Atrium pour l'instant non, parce que donc après je vais bifurquer vers le sel à Sèvres voilà. Dans la prochaine chronique. Si je peux vous dire pour revenir au cinéma, c'est que si vous n'avez pas vu le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, courez-y. Il y a une invention par minute de mise en scène. Il y a une bande sonore extraordinaire. C'est pas une comédie musicale, c'est un drame musical, mais c'est vraiment très chouette.
D'accord, on ira.
Merci, merci beaucoup. On passe tout de suite à la chronique à portée de parole où on retrouve Monique au micro qui va nous présenter l'association Aïkido.
À portée de parole avec Diane Lafront.
Oui, alors je me fais leur porte-parole, je ne fais pas moi-même d'aïkido, donc je vous demande d'être bienveillant à mon égard si je commets des choses qui ne sont pas tout à fait ce que vous voudriez entendre. Voilà.
Alors d'abord, quelle est l'origine de l'aïkido?
Voilà, alors à l'origine, l'aïkido est une technique de défense à main nue ou avec arme. Souvent, lorsque la technique était développée à un point d'une grande efficacité, une nouvelle école était créée. Les enseignants et les élèves risquaient leur vie dans des affrontements réels.
Alors, géographiquement, c'est où?
En Asie. Les techniques développées de nos jours au Japon, je vais en parler. Les techniques développées de nos jours ont atteint de grandes exigences à un niveau presque scientifique. Alors, au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est que le bouddhisme a apporté une philosophie et une spiritualité aux disciplines martiales. Il y a eu plusieurs grandes étapes dans le développement des arts martiaux, notamment pour l'aïkido. Alors on peut parler de deux étapes principales, le bujutsu, ou la période des techniques guerrières, qui a donné le terme d'aïki-jutsu, et le budo, ou la voie guerrière, et qui a donné ensuite aïkido. Cette dernière, le budo, englobe un champ beaucoup plus large que celui de tuer un ennemi et vise à construire un chemin de vie qui embrasse les éléments de vie au quotidien. On peut le résumer en disant que la discipline est passée d'un art de tuer à un art de vivre. Alors, surtout à la fin de la période de la classe des samouraïs au Japon, les arts martiaux sont devenus une voie d'importance avec l'objectif de construire des individus plus forts et de bâtir une société plus vertueuse, recherchant l'harmonie. Le principe fondamental de l'aïkido est de s'accorder avec son adversaire afin de sentir ses intentions et d'être capable de prendre avantage de ses mouvements. Donc ça a donné naissance au caractère aï, rencontrer, qui, esprit, do, la voix, dans le sens de la philosophiquement décrit précédemment. Le président de l'association qui œuvre à Chaville a vécu au Japon et durant 5 années consécutives, il a été le disciple à demeure, c'est-à-dire vivant au dojo, du maître Shioda qui a vécu de 1915 à 1994. Et donc Jacques poursuit la transmission de l'enseignement reçu par maître Shioda depuis 1982, après son retour en France, et notamment à Chaville depuis 1987. Ce qui fait la richesse et l'intérêt de cet enseignement, c'est qu'il invite à réfléchir sur son développement personnel, mais aussi sur une harmonisation collective entre individus. Quel est l'apport de l'aïkido à l'individu et quel est l'apport ensuite de l'individu au collectif, les deux étant liés.
Alors, que propose l'association et qui peut faire de l'aïkido ?
Alors, les cours sont ouverts à tous et à toutes à partir de 13 ou 15 ans. On ne commence pas plus petit, on attend cet âge-là. Mais à partir du moment où on décide de commencer, on peut commencer à n'importe quel moment de la saison. Un cours d'essai est fortement recommandé. Les cours, quand ont-ils lieu ? Ils ont lieu le soir et le midi. 1 heure le midi et 1h30 ou 2h le soir et le dimanche. Pour faciliter effectivement le paiement, là c'est les cotisations, ça peut être fait en plusieurs fois, etc. Ça vous verrez directement avec l'association. Les horaires, le lundi 20h, 21h30, mardi 12h30, 13h30, jeudi 12h30, 13h30 et 19h30, 21h30, et enfin dimanche 9h30, 11h30.
C'est au gymnase Alimi ?
C'est au gymnase Jean Jaurès.
Ah, Jean Jaurès. Hein,
c'est aussi au gymnase Jean Jaurès. Alors, les cours du midi, ils ont été institués pour permettre à des personnes qui ne sont pas forcément libres le soir, mais qui ont des moments de disponibilité dans la journée, soit parce qu'ils travaillent à temps partiel, soit parce qu'ils sont en travail à domicile, soit parce que ce sont des mères ou des pères de famille qui s'occupent des enfants. Donc, de leur permettre effectivement d'avoir accès à cette activité. Il y a en plus des cours, des stages qui se déroulent une fois par mois, suivant un calendrier qui est indiqué sur le site. Le site, Jonathan en parlera tout à l'heure. Bon, et qui sont ouverts à tous les pratiquants d'aïkido, mais qui ont déjà un minimum de base dans la pratique, et qui permettent d'apporter un complément d'information et un enrichissement supplémentaire. Alors, ce qui m'a été dit aussi, c'est qu'ils peuvent être organisés des cours de self-défense en fonction de la demande. Alors, les lieux, on l'a dit, c'est au stade Jean Jaurès. Donc là, ce qui est assez commode, c'est qu'il y a un parking disponible à côté. Si vous souhaitez faire un cours d'essai, ce qui est fortement recommandé, vous pouvez venir absolument simplement en survêtement et en t-shirt. Inutile d'acheter une tenue particulière. Vous verrez le détail des cotisations qui sont différentes pour les cours du midi, les cours du soir, voire les cours associés si ça vous souhaite, si vous le souhaitez. Tu peux rappeler peut-être les coordonnées.
Oui, ben je vais rappeler les coordonnées. Du coup, le site, ça va faire la transition. Vous pouvez retrouver l'adresse du site internet en description de cette émission, ou sinon vous pouvez contacter par téléphone au 06 60 44 73 00 ou par mail aikido.yoshinkan yoshinkan.france@gmail.com. Merci beaucoup Monique, merci Alain. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment lundi prochain à 8h. C'était Jonathan de Nuit sur Radio VCE.